Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le deuxième verset, Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lors de notre dernier passage, nous terminions sur cette déclaration que il n'y a pas de moyen de générer la foi dans une vie et encore moins de l'augmenter. La réalisation de la foi biblique a de quoi déconcerter l'âme humaine qui cherche sans cesse à faire pour être. Qu'est-ce que je dois faire pour être ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un chrétien ? On n'est pas un chrétien en faisant des choses. On est un chrétien parce qu'on est né de nouveau. Et c'est parce qu'on est né de nouveau qu'on va faire certaines choses en rapport de notre foi chrétienne. Faire les choses, c'est pas ça qui fait de nous un chrétien. C'est pas parce que tu pries que tu es chrétien. C'est pas parce que tu lis ta Bible que tu es chrétien. C'est même pas parce que tu t'es fait baptiser que tu es chrétien. C'est pas parce que tu as ton nom sur une liste au niveau de l'église ou que tu reçois la newsletter de l'église que tu es un chrétien et une chrétienne. Un chrétien et une chrétienne, c'est un homme et une femme. Eh bien, qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit, qui ont reçu Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Et à partir de là, eh bien oui, ils prient, ils lisent leur Bible, ils font toutes sortes de choses pour le Seigneur, ils viennent à l'église, ils se réjouissent, ils chantent des cantiques, ils louent le Seigneur de tout leur cœur, ils participent à la Sainte Cène, ils versent leur offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui bénissent ceux qui sont autour d'eux. Ils élèvent leurs enfants dans les voies chrétiennes. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent par l'Esprit, qui sont pleins du Saint-Esprit. Amen. Mais la foi est l'abandon de celui qui se sait perdu et qui fait entièrement confiance à son Sauveur. Elle apprend à ne dépendre que de Dieu, la foi. Et elle n'est assurément pas un moyen de le satisfaire. Seulement dans Hébreux 11, au verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous savons qu'aucune bonne œuvre ne peut compenser un manque de foi. Et que parvenir à augmenter sa foi par soi-même équivaudrait à une œuvre personnelle, le résultat d'une forme de piété personnelle. La foi est la seule attitude qui donne à Dieu sa véritable place et qui remet en même temps l'homme à la sienne, parce que c'est quand Dieu est à sa place que nous sommes à la nôtre. Parce que parfois, on aurait un peu tendance à prendre la place de Dieu en nos propres vies, voire en la vie de certaines personnes qui nous entourent. Il faut que Dieu ait sa place dans notre cœur, qu'on lui accorde cette place dans notre vie, au centre de notre vie. Amen. Et que tout puisse tourner autour de lui et pas forcément autour de nous. Un homme disait un jour, il y a deux choses dans un cœur, une croix et un trône. Soit tu es assis sur le trône et tu règnes sur ta vie, alors Christ est toujours sur la croix. Soit tu fais l'inverse, c'est toi qui montes sur la croix et enfin Christ pourra s'asseoir sur le trône et régner sur ta vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Soit c'est toi qui règnes, soit c'est Christ qui règne et en fonction de ça, eh bien, celui qui est sur la croix ne sera évidemment plus le même. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes pour que Christ puisse régner en nous. C'est ça la nouvelle naissance, mourir à soi-même pour que Christ prenne toute la place dans nos cœurs par la foi. Aucune bonne œuvre ne peut compenser un manque de foi. et que parvenir à augmenter sa foi par soi-même est donc une œuvre personnelle, une forme de piété. La foi est la seule attitude qui donne à Dieu sa véritable place et qui nous permet de prendre la nôtre. Ainsi, quand notre horizon est chargé de nuages, des nuages de l'épreuve, la foi que Dieu nous donne nous permet de porter nos regards plus loin que notre actualité, que nos circonstances. Nous regardons à Jésus là où rayonne sans ombre la grâce et la fidélité divine. Dans l'Épître aux Hébreux, on l'avait lu ensemble, les héros de la foi, que faisaient-ils ? Ils portaient les regards sur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes appelés à regarder au Seigneur. Nous regardons à Jésus parce que c'est de lui que notre foi vient. Cette foi que Dieu nous a donnée, ce n'est pas quelque chose qui s'est généré en nous tout seul. Cette foi que Dieu nous a donnée est une nécessité pour parvenir à contempler Christ, même dans les heures les plus sombres de notre vie. C'est alors qu'en dirigeant nos regards vers lui, nous sommes non seulement rayonnants de joie, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et quand il tourne sa face vers lui, il est rayonnant de joie. Mais aussi fortifié spirituellement et amené progressivement à la perfection de la foi, c'est-à-dire à sa plénitude. La foi nous fait sortir du moi, de l'égocentrisme, pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu. La foi n'est pas seulement une conviction que la parole... Une conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. Non, la foi est cette faculté spirituelle par laquelle on peut s'attendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. Elle parle d'une intimité et pas d'une forme de religiosité. C'est quand nous cultivons cette faculté, cette proximité avec Dieu, quand nous vivons habituellement de cette foi-là, que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. La foi en Christ est là pour étancher toutes les soifs que nous avons par la plénitude qu'il désire réaliser en nous. Non, je le répète, il n'y a pas de moyen de générer la foi dans une vie et encore moins de l'augmenter. Dans la suite donc de la semaine dernière, le point numéro 2 est avoir la foi suffisamment. La question qui se pose parfois à nous est de la quantité de foi qui nous est nécessaire pour atteindre ce que Dieu a pour nous. Ai-je assez la foi pour saisir ce que Dieu a pour moi ? Et on se pose la question, beaucoup de chrétiens se questionnent concernant leur quantité de foi, voire même se disent au fond d'eux, eh bien, j'ai pas eu assez la foi pour pouvoir saisir cela. Ainsi, on a souvent à l'esprit l'image qu'avec peu de foi, on reçoit peu, et qu'avec beaucoup de foi, on reçoit beaucoup. S'il est question de plénitude de foi, il est donc question de quantité de foi, non ? Vous faites la différence entre la moitié vide et plein. Mais lorsque l'on regarde dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 5, les disciples vont s'adresser à Jésus. Et ils vont lui dire, augmente-nous la foi. Une telle déclaration de la part des apôtres laisse à penser qu'il manquait de foi, puisqu'ils vont dire à Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi !» On pourrait dire ils en manquaient, comme tu pourrais dire ce matin, « Je pense que je manque de foi pour certaines choses. » Et il est logique de penser que, eh bien, nous pouvons en manquer nous aussi comme les apôtres, et que notre niveau de foi n'est pas suffisant pour atteindre tout ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous connaissez un distributeur de foi ? Le maire de La Ciotat ne l'a pas encore installé dans la ville. À Carrefour, il n'y en a pas. Il y a des distributeurs de billets, ça, il y en a. Il y a toutes sortes de distributeurs dans la ville, mais distributeurs de foi, même dans l'église, On a fait tous les catalogues de Viens et Vois, de la maison de la Bible, etc. Pas de distributeur de foi. Comment faire pour la faire augmenter? Puisque les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Et quand ils viennent vers Jésus, est-ce qu'ils se retrouvent devant le distributeur de foi? Ou l'augmenteur de foi? Dans ce passage, les disciples sont face à Jésus. Et d'un commandement précis qui leur paraît vraiment au-dessus de leur force. Si ton frère te fait du tort 7 fois par jour, 7 fois tu lui pardonneras. Et les disciples disent, mais c'est pas possible. Pardonner sans aucune limite, c'est pas possible. Il les appelle à pardonner quelqu'un qui se repent autant de fois que nécessaire. Et les disciples ont à ce moment précis un sentiment d'incapacité absolue. On en est incapable. Jésus, elle est bien ta leçon. Ce que tu nous dis, on en comprend la nécessité. Mais nous en sommes incapables. Tu nous demandes quelque chose qu'on ne peut parvenir à accomplir. Et il redécouvre, les apôtres, l'éternel conflit entre l'obéissance à Christ, parce que nous sommes appelés à obéir à Jésus, et la soumission à la nature de l'homme, ce que nous sommes profondément, et qui lutte constamment contre le fait que nous sommes appelés à obéir à Jésus. Nous savons ce que Jésus veut, ce qu'il souhaite, mais au-dedans de nous, ça lutte contre cela. Soumission à notre nature humaine. Alors le seul recours possible pour les apôtres est la foi. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On sait qu'il faudrait pardonner autant de fois que nécessaire, mais ça nous est impossible. Alors Seigneur, parce que notre nature humaine ne nous permet pas d'accéder à ce que tu demandes, il va falloir que tu nous boostes. Il va falloir que tu augmentes notre foi. Fais grandir notre foi, Seigneur. Comme pour les apôtres, c'est lorsque nous nous retrouvons vraiment face à nous-mêmes et au pied du mur, que nous commençons à comprendre ce qui nous manque véritablement. La demande des apôtres est très révélatrice car leur requête s'enracina dans la prise de conscience de leur propre faiblesse. Ils conçoivent leur faiblesse. Et en rapport de leur faiblesse, ils vont se tenir devant Jésus. Et je pense que la première des choses à faire, c'est déjà de confesser notre faiblesse, de savoir que nous sommes faibles, en tout cas en rapport de ce que le Seigneur attend de nous. Ils se retrouvent confrontés à leur propre faiblesse, ils sont au pied du mur devant une impossibilité, ils regardent à eux-mêmes et se disent « à nous c'est impossible ». Seulement il y avait un réel décalage entre les disciples, leurs besoins exprimés et le Seigneur. Ça vous arrive de vous retrouver en décalage entre vous et Jésus? Entre ce que vous savez que vous êtes réellement et ce que Jésus est et ce qu'il demande lui. Un décalage entre les disciples et leur maître, entre leurs besoins exprimés et le Seigneur. C'est pourquoi Jésus ne répondit pas directement à leurs requêtes. Et surtout ne donna aucune recette, ni même adresse, susceptible de satisfaire immédiatement ses disciples. Jésus ne va pas leur dire, écoutez voir, venez là, prenez un papier, un stylo, vous allez noter, je vais vous expliquer comment on fait augmenter la foi. Premier point. Et puis il donne sa liste. Jésus ne va pas donner une recette pour l'augmentation de la foi dans le cœur du disciple. Jésus va d'abord souligner l'efficacité de la foi. D'un simple grain de foi qui est capable de soulever des montagnes. Jésus va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, eh bien, vous pourriez déplacer des montagnes. Jésus n'est pas en train de leur dire « Il va falloir augmenter la foi parce que vous avez vu la grandeur de la montagne. » Juste, il dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez déplacer cette montagne. » Pour Jésus, sa réponse à « Augmente-nous la foi », c'est d'expliquer quelle est l'efficacité de la foi. Jésus ne répondit pas à ses disciples quant à la taille de leur foi. Il ne dit pas « Voilà, il faut tant de foi pour déplacer une montagne de telle dimension, tant de foi pour déplacer une petite cuillère, tant de foi pour obtenir une guérison. » Il n'est pas en train de donner des valeurs à la foi en fonction des situations que nous rencontrons. Jésus ne répondit pas à ses disciples quant à la taille de leur foi, mais il évoquait un phénomène étrange et surnaturel. C'est pas étrange et surnaturel que de déplacer une montagne, vous en voyez beaucoup, vous, se déplacer des montagnes. Il est en train de révéler quelque chose d'étrange et de surnaturel. Jésus amena ses disciples à considérer que l'exploit à réaliser, qui était celui de pardonner à son frère, était de la même nature que de déplacer une montagne. Jésus dit, je sais que c'est impossible pour vous. De même que c'est impossible pour vous de déplacer une montagne. Je suis au courant de cela. Cela a été impossible à vue humaine, mais pas impossible par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Ainsi, nous devons réaliser que Dieu ne cherche pas de notre part davantage de foi. Le Seigneur ne dit pas « Ah oui, il va falloir que j'augmente votre foi parce que sinon vous n'allez pas y arriver. » Il ne cherche pas de notre part davantage de foi. Mais il fait simplement appel à l'exercice de la foi qu'il nous a donnée. De cette mesure de foi que Dieu nous a accordée. Jésus dévoile ainsi à ses disciples ce qu'ils possèdent déjà. Et il souligne non la quantité, mais l'efficacité de ce que Dieu a déjà planté en eux. La dernière fois, je vous ai dit que la foi, c'est le don de Dieu. Il a placé cette foi en nous. Le problème, c'est que cette foi qu'il a mise en nous, on ne s'en sert pas correctement. On la regarde et on se dit « Ah, certainement, elle n'est pas assez suffisante devant ces impossibilités qui m'entourent. » Alors on se dit « Seigneur, fais-la grandir. » Comme si s'il la faisait grandir, elle pourrait enfin atteindre ce que Dieu attend. Mais Jésus dit « Regarde, devant une impossibilité de déplacer une montagne, la foi comme un grain de sénévé, elle est capable de le faire. Arrête de croire qu'il faut que tu augmentes ta foi. » Je ne te demande pas d'augmenter ta foi. Je te dis, active la foi que j'ai mise dans ta vie. Arrête de croire qu'elle est insuffisante en toi. Arrête de t'imaginer, si j'en avais plus, alors je pourrais recevoir plus. Petite foi, petite bénédiction, grande foi, grande bénédiction. Alors on peut faire des séminaires pour augmenter la foi des chrétiens, séminaire en 3 jours, comment vous augmenter la foi, mais... Moi, j'ai pas la recette. Ça me fait toujours rire. Vous avez la foi si vous êtes fils et fille de Dieu. Elle a été mise en vous. Et je dirais, peu importe sa taille, on n'est pas là pour mesurer la foi. On est juste là pour l'activer. Plutôt que de regarder à ce que nous n'avons pas comme une raison suffisante pour justifier nos propres faiblesses. Regardons à ce que Dieu a placé en nous et qui demande simplement à être utilisé pour accomplir sa volonté. La plénitude de la foi n'est donc pas une quantité de foi abondante qui sera stockée dans un coin de notre âme, mais la simple mise en œuvre de la foi que Dieu nous a déjà donnée. Et si nous activons cette foi que Dieu a mise en nous, et que nous ne nous arrêtions pas à notre incrédulité qui en réclame toujours davantage, nous réaliserions que nous possédons déjà tout ce qui nous permet d'accéder à l'impossible et qui reste trop souvent inopérant ou stagnant dans nos cœurs. Il n'y a donc pas deux types de foi, ou plutôt deux types de chrétiens, les pleins de foi ou les riches en la foi, et les démunis de la foi ou les pauvres en la foi. Il n'y a pas deux types de chrétiens. Ah, il est plein de foi ce frère. Non, pas plus que moi. Seulement, il active sa foi. Il n'a pas trouvé un endroit où on a pu lui augmenter. Il l'active. Et une fois qu'il est activé, il va recevoir. Alors on a tendance à s'en servir de plus en plus. Parce que quand on a une réponse en rapport de la prière de la foi, alors on est amené à recommencer, hein ? Non ? Il y a simplement des chrétiens qui exercent la foi plus souvent que d'autres qui l'utilisent moins et qui se retrouvent ainsi aux prises avec leurs doutes. Il n'est pas question ici d'incrédulité. Est-ce que vous faites la différence entre l'incrédulité et le doute ? Parce que dans la tête de beaucoup, c'est pas clair, hein, même de certains pasteurs, c'est pas très clair la différence qu'il y a entre, j'ai lu des messages sur l'incrédulité, et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'incrédulité. Ce message parlait du doute. Et il y a une grande confusion dans beaucoup d'esprits entre l'incrédulité et le doute. Là, il n'est pas question ici d'incrédulité, car il faut clairement faire la différence entre le doute et l'incrédulité. Wes Guinness va dire « La distinction entre le doute et l'incrédulité, elle est cruciale. » La Bible fait clairement la différence entre les deux, même si cette différence n'est pas toujours facile à cerner, ce qui fait que ça entraîne de la confusion. Si le doute est cet état de suspension à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité, donc vous mettez la foi à une extrémité et vous mettez l'incrédulité à l'autre, le doute c'est au milieu. D'accord ? Si le doute est cet état de suspension à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité, l'incrédulité, en revanche, désigne une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu. Fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu. Une attitude intérieure de désobéissance et de défiance vis-à-vis de la vérité. C'est l'incrédulité extrême, c'est « je ne crois pas que Dieu existe ». Ça, c'est de l'incrédulité. Ainsi, l'incrédulité résiste d'un choix arrêté, d'un refus délibéré de croire ou d'une volonté consciente de désobéir. C'est pour cette raison qu'elle est condamnable. L'incrédulité, c'est un péché. Le doute ne l'est pas, mais l'incrédulité, oui. La distinction entre la foi, le doute et l'incrédulité est évidente. La foi, c'est être cohérent dans sa croyance. L'incrédulité, c'est être cohérent dans son incroyance. Et le doute consiste à être pris entre les deux. L'incrédulité est le refus délibéré de croire. Tandis que le doute est une forme d'hésitation. À ce propos, il dit dans l'Écriture, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, versets 19 à 22, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. » Il est parlé de qui ? D'Abraham. « Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Regardez ce qu'il est dit. « Il ne douta point par incrédulité. » Et là, l'auteur Paul nous fait bien la différence. Puisqu'il met les deux mots l'un à côté de l'autre, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham ne doute pas de Dieu. Abraham ne doute pas de la promesse que Dieu a faite. Il n'en doute pas du tout. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et nous découvrons dans ce verset qu'Abraham ne douta pas par incrédulité de la promesse, mais il douta certainement du moyen de la recevoir, c'est-à-dire de lui et de Sarah, sa femme. Tu peux douter de toi, mon frère, ma sœur. Et même parfois, je recommande qu'il est utile de douter de soi-même. Parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir beaucoup d'humilité. Alors dans un monde où il faut, où on essaye de développer la confiance en soi, l'assurance de soi, le développement personnel, etc., je suis un peu en contre-courant en disant, c'est pas un problème si on n'a pas confiance en nous. À condition que le manque de confiance en toi t'amène à avoir de plus en plus confiance dans le Seigneur qui vit en toi. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter l'homme, c'est d'augmenter le Seigneur en nous. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse, mais pour cela, il faut que je diminue. On est trop souvent tourné par l'augmentation de l'homme. On cherche à augmenter notre potentiel, à augmenter notre foi, à augmenter notre compte en banque, augmenter nos kilos. Non, on veut les diminuer, ceux-là. Augmenter notre capillarité, augmenter. Comment faire pour augmenter ? Jean-Baptiste va dire, on n'a pas à augmenter, on a juste à diminuer. Parce que quand on va diminuer, Jésus va prendre plus de place en nous. Abraham ne doute pas du Seigneur. Il ne doute pas de la promesse du Seigneur. Si Abraham avait douté de la promesse, celle-ci ne se serait jamais manifestée. Abraham est donc resté ferme dans la foi et a gardé les yeux sur les choses invisibles. Il a persévéré dans une pleine conviction, malgré la détérioration évidente des choses visibles. Ouais, quand t'as passé 90 ans, tu te dis bon, mettre un enfant au monde, ça va devenir compliqué. Hein. La détérioration de tout ce qui est visible n'enlève jamais rien à la fidélité de Dieu, ni à sa toute puissance, car il ressuscite même les morts. Il crée les choses visibles à partir de celles qui sont invisibles. Il fait sortir du néant et amène à l'existence tout ce qu'aujourd'hui nous étudions et nous pouvons toucher. Tout ça est sorti de rien. En d'autres termes, ce n'était pas parce que la promesse ne s'était pas encore réalisée ou ne s'était encore jamais réalisée ou parce que rien ne se passait encore à mesure que le temps s'écoulait que Dieu n'allait pas rester fidèle à sa promesse. Dieu ne s'est pas dit « Oh mince !» J'ai oublié Abraham et Sarah. Quel âge ils ont, les anges? Dites-moi. Ah ben, il y a trop tard. Trop tard, maintenant, ils vont plus y arriver, les deux, là. Non. Dieu savait très bien qu'il fallait qu'Abraham arrive là. Dieu allait se glorifier dans l'impossible. Dieu allait prouver ce qui est plus qu'improbable, ce qui est irréalisable, inconcevable. Abraham, as-tu encore la foi maintenant? Oui, en toi, pas en moi. Moi, en toi, oui. Je sais que pour toi, tout est possible, Seigneur. Tu es capable de faire de grandes choses. Même s'il fallait, tu pourrais me faire rajeunir. Me recréer entièrement. Ce n'est pas l'option que Dieu a choisie. Ce serait trop facile. Abraham reste ferme dans la foi. Sa rationalité, elle est totalement arrachée de sa vie. Plus rien de rationnel sur lequel il puisse s'accrocher. Il reste ferme dans la foi, c'est-à-dire dans la totale certitude qu'il possédait déjà ce que Dieu lui avait promis. Moi, ce que j'aime bien, c'est les enfants à l'époque de Noël. Waouh, la foi qu'ils ont, quoi. Ils sont sûrs que ce qu'ils ont demandé, ils vont l'avoir. Il va peut-être y avoir des déçus quand même. Mais ils ont la foi, ces petits. Hein. Et vous, vous allez tout faire pour ne pas les décevoir. Même s'ils n'ont pas toujours été obéissants dans l'année. Abraham reste ferme dans la foi. Si la foi consiste à prendre possession des promesses de Dieu, elle doit également s'attendre à Dieu lui-même. C'est alors qu'elle devient plénitude de foi, tellement elle occupe de place dans notre vie. Quand nous avons pris cette position devant Dieu, nous devons nous y maintenir avec fermeté, car alors le Saint-Esprit, qui a déjà eu accès en nous et qui est en nous, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est là en nous en train d'agir, nous révélera davantage encore tout ce que Dieu a préparé pour nous et nous serons maintenus dans un sentiment d'humble dépendance. Nous serons alors préservés de cette vie d'efforts répétés qui mène souvent qu'à des déceptions et des chutes parce que tout en cherchant à servir Dieu en esprit, on met encore sa confiance dans la chair. Cependant, comme cela fut le cas pour Abraham, il nous arrive aussi de douter, non pas de Dieu et de sa volonté, mais de nos capacités à parvenir à l'atteindre, et cela chaque fois que nos yeux se détournent de lui. C'est alors que les doutes viennent s'immiscer au cœur de notre foi. Non pour la remettre en question, mais parce que nous nous laissons la rationalité s'installer et nous diriger à la place de l'Esprit-Saint. On fait nos calculs. On regarde nos provisions. Au lieu de nous diriger à la place par l'Esprit-Saint et la parole de Dieu. Il ne faut donc pas confondre le doute avec l'incrédulité. Et c'est parce que Abraham se laissa impressionner par les choses visibles qu'il reprit les rênes de sa vie pour opter pour le raisonnable, tout en gardant le but de la vision divine. Et il s'installa ainsi dans une forme de rationalisme. Il n'avait pas abandonné la foi. Il n'a pas dit « Je vais faire un enfant à ma servante et j'abandonne Dieu avec tout ce qu'il m'a dit. » Non, jamais. Mais il est entré dans la rationalité avec Dieu. Et ça, c'est un problème en France. On conjugue Dieu et la rationalité. En réalité, on n'est pas que spirituel. Il faut arriver à jongler avec les deux dans la pensée franco-française. Il faut que la foi se conjugue avec la rationalité. Je sais que la foi, ce n'est pas la perte de la raison. Mais si parfois on était un peu moins raisonnable et un peu plus à actionner la foi, peut-être qu'on irait chercher des choses qui sont encore un peu éloignées de nous aujourd'hui. Parce que notre rationalité va émettre un tas de doutes qui nous empêchent de saisir. Au lieu de croire mes doutes et douter de ma foi, je veux croire en ma foi et douter de mes doutes, car mes doutes sont redoutables. Ils m'empêchent d'accéder à ce que Dieu a pour moi. Ils ne sont pas péchés. Dieu ne les considère pas comme un péché. Ce n'est pas de l'incrédulité. Je crois que Dieu peut tout. Mais moi, je ne crois pas que je puisse l'atteindre. Ça, c'est du doute. Et le Seigneur nous demande de faire la guerre à nos doutes en mettant nos yeux sur lui. Et d'arrêter de les mettre sur nous. Sur nos capacités, nos possibilités. Est-ce que j'ai assez de foi, pas assez de foi? Est-ce que j'ai assez l'esprit, pas assez l'esprit? Est-ce que mon pasteur est assez spirituel? Est-ce que mon église va me soutenir? Est-ce que? Arrête de poser un tas de questions. Et puis, actionne la foi. Et confiance dans le Seigneur. Cherche pas des appuis humains autour de toi. De toute façon, Dieu va les enlever un par un. Si ta foi, tu la mets autour de toi, Dieu va enlever toutes les choses sur lesquelles tu t'appuies pour qu'il n'y ait plus que lui et lui seul. Alors pour éviter de vivre un épuisement des ressources qui sont autour de toi pour qu'enfin tu dises « il ne reste plus que Dieu maintenant », mets déjà ta foi en Dieu, ça t'évitera de faire la perte de beaucoup de choses dans ta vie. Juste pour que ta foi s'exerce. Combien de gens peuvent dire « il a fallu que je sois malade pour me rendre compte que Jésus est le Jésus de la guérison ». Dommage. Peut-être si tu avais eu la foi avant, tu serais peut-être pas passé par où tu es passé. J'en sais rien, je dis ça. Mais en tout cas, ça aurait peut-être pas duré le temps que ça a duré. Il est celui aussi qui guérit. Et tous ceux qui sont malades devraient mettre la foi dans celui qui guérit. Même si la maladie peut prendre du temps et est un processus. Moi, je confesse que chaque chrétien qui recouvre la santé, c'est pas grâce à un médicament, c'est grâce à Jésus. Mais je confesse encore plus que tout homme et toute femme sur la terre qui est guéri, même par un médicament, à la base, c'est Jésus qui a guéri. Parce que les moindres molécules qui sont utilisées dans les processus médicamenteux sont l'effet du Créateur. Et l'intelligence mise dans les professeurs pour arriver à aller chercher tous ces médicaments et les mettre sur le marché, et aussi l'effet de ce qu'on appelle la grâce commune, et je vous renvoie à la prédication sur la plénitude de la grâce. Abraham, le père des croyants, nous démontre ainsi par sa vie de foi l'itinéraire à suivre pour connaître la plénitude de la foi. Prenons donc exemple sur lui, car comme lui, Dieu nous a laissé de merveilleuses promesses. Celle du salut, de la plénitude du Saint-Esprit, de la grâce et de la foi, de la puissance et de la plénitude de Dieu lui-même. Considérons-nous ces promesses sans faiblir dans la foi. S'il nous arrive de douter, je vais poser la question à l'envers. Au lieu de dire « qui doute de temps en temps ?» Je vais plutôt dire « qui ne doute jamais ?» qu'il lève la main. Ok, vous avez vu, je ne l'ai pas levé non plus. Au moins, on a un point commun. S'il nous arrive de douter, de paniquer, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. J'ai des doutes, mais ce n'est pas pour ça que je doute de Dieu. Je crois en lui profondément. Mais je doute. Je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes et qui sombrent dans les méandres de l'incrédulité qui est un péché. Nous ne devons jamais naviguer dans les eaux troubles de l'incrédulité qui déshonore Dieu et qui déclare que Dieu ne peut accomplir la promesse qu'il a faite. L'incrédulité est la racine de tous les péchés. C'est pourquoi la foi est si importante et si nécessaire aux yeux de Dieu. Charles Swindoll va dire « Au moins une indication de l'incrédulité est la tendance à mesurer les défis de la vie contre notre propre adéquation à la place des promesses de Dieu. » On compare. Pour entrer dans notre repos sabbatique, dans le repos que Christ nous accorde, nous devons mettre fin à l'autosuffisance, croire que de nous-mêmes on va y arriver. Faire confiance à nos propres capacités pour surmonter les difficultés, défis, échapper à des tragédies ou atteindre la grandeur personnelle. Développement de l'homme, développement personnel. Nous devons cesser de nous efforcer et faire confiance à Dieu pour fournir ce qu'il pense être le meilleur et le temps qu'il choisit pour le rendre disponible. Mais ce genre de confiance ne vient pas naturellement. C'est une crise spirituelle de la volonté de la nôtre dans laquelle nous devons choisir d'exercer la foi. R.C. Sproul va dire « L'incrédulité est jugée par Jésus non comme une erreur intellectuelle, mais comme un acte hostile de préjugé contre Dieu lui-même. » Jamais un chrétien devrait dire « J'ai de l'incrédulité. » C'est du péché. C'est la remise en question de Dieu. Tu peux dire « Je doute de moi, mais pas de ce que Dieu m'a dit. » Je doute pas que Dieu puisse faire les choses. Je doute que moi j'ai la capacité de les réaliser. Ne regardons pas l'incrédulité comme une faiblesse. Alors que Dieu la voit comme le pire des péchés, l'incrédulité rend l'homme incapable de rester en communion avec le Dieu vivant. Du Dieu différent des idoles, du Dieu qui entend, qui voit et qui agit. C'est la plus grande offense qui puisse être faite à Dieu et celle qui entraîne les plus graves conséquences pour nous-mêmes. John Stott va dire « L'incrédulité n'est pas un malheur à plaindre, c'est un péché à déplorer. » Là où est l'incrédulité, la foi n'est plus. Là où est le doute, la foi doit se renforcer, s'affermir et s'enraciner. Est-ce que tu es dans l'incrédulité ou dans le doute? Ne confonds plus les deux. L'incrédulité, il n'y a plus la foi. Ou elle n'y a jamais été peut-être. Mais là où est le doute, la foi est appelée à se renforcer, s'exercer, s'affermir, s'enraciner. Je termine. Avec le psalmiste au psaume 23,5, je veux déclarer que Dieu dresse devant moi une table en face de toute forme d'adversité qui, loin d'huile, ma tête et que ma coupe déborde. Ça veut dire quoi, ça? Ça parle de quoi, la coupe déborde? De la plénitude. Plénitude de grâce, plénitude d'esprit, plénitude de foi. Oui, je suis devant des adversaires, oui, j'ai des combats, mais il oint, lui, mon berger, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je sais pas, j'ai un peu d'huile dans le fond, je sais pas si je vais en avoir assez. Non, ça déborde. Mon berger n'est pas avare en huile. Il fait déborder ma coupe. Il y a en Dieu une plénitude de foi qui est du fait de l'huile d'onction, de la présence de l'Esprit et de son activité dans notre vie. La plénitude de la foi va repousser la mondanité, le légalisme, la mauvaise conscience de Christ en nous. Le manque de vigilance et l'égocentrisme, elle va rendre le cœur docile, attentif à la voix de Dieu et confiant en sa parole, parce que la foi se nourrit de la communion divine. Elle nous délivre d'un cœur méchant. Elle nous fait goûter le miel du rocher et nous abreuve au torrent des délices divins. Elle maintient en nous une bonne santé spirituelle. Et nous fait escalader les sommets vertigineux, comme les profonds fossés de la vie avec Dieu. Alors nous suivons les traces du Christ. Plein de foi, plein d'Esprit Saint et de grâce. Nous parcourons nos vies en laissant le bon parfum du Christ partout où nous passons. Nous allons de victoire en victoire. Même si notre chemin passe irrémédiablement par des champs de bataille intenses. L'apôtre Paul déclara dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15, « Grâce soit rendue à Dieu, dit-il, qui nous fait toujours, toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et aussi parmi ceux qui périssent. Notre vie est en Christ, en celui qui remplit tout, en tous. En lui, dira Jean 1,16, nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, au lieu de dire « augmente ma foi » et de confesser que tu n'as donc pas tout reçu, confesse plutôt que tu as tout reçu et actionne ce que Dieu t'a donné. Vous réalisez là? Cette plénitude de Dieu en Christ nous transmet la grâce, la vie divine qui nous ouvre à des conditions nouvelles, que notre nature ne pouvait pas atteindre d'elle-même jusqu'à ce que le Christ, dira Paul aux Galates, dans Galates 4,19, soit formé en nous. Parce que je ne vous parle pas d'une foi qu'il nous a donnée, je vous parle de la foi du Christ qui est en nous. On parlait de l'union avec Christ la semaine dernière. Lui en nous et nous en lui. Je ne vais pas aller chercher mes capacités personnelles pour actionner la foi dans l'impossible, mais je vais aller chercher la foi du Christ qui est en moi. Et lui, je sais qu'il doute jamais. Ce que je demande à mon Père, je sais déjà que je l'ai reçu. Toi, des fois, tu demandes au Père, ça t'arrive jamais de douter qu'il va te le donner. Jésus ne doute jamais. Il demande selon la volonté du Père. Et le Père ne lui refuse rien. Parce qu'il ne se trompe jamais dans ses prières. Il ne demande jamais de quoi satisfaire sa nature charnelle. Il demande à satisfaire le cœur du Père. Père, donne-moi des choses qui vont te plaire à toi. Je ne te demande pas des choses qui vont me plaire à moi. Je te demande des choses qui vont te plaire. Pas ma volonté, je ne veux pas ma volonté, Seigneur. Oh, j'attends que vos prières soient comme ça. Seigneur, surtout, ne nous donne jamais ce que nous voulons. Donne-nous seulement ce que toi tu veux. Il faut avoir atteint un certain cap pour faire ce genre de prière. Et de se dire, ah ouais, je ne peux plus rien demander de ce que je veux à Dieu. Ben non. Ah mais moi je croyais que Dieu c'était celui qui te donnait tout ce que tu voulais. Ben non, celui-là il s'appelle le Père Noël. Je ne veux pas casser le mythe, mais pour moi c'est un escroc, hein, vous savez, le Père Noël. Le vrai Père Noël, c'est le Seigneur, mais il n'est pas là pour nous pourrir. Il est là pour nous donner selon sa volonté. Tu vas peut-être faire des cadeaux à Noël. Alors tu es allé vers ceux que tu aimes et peut-être tu leur as dit « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Parce que c'est un peu énervant. C'est un peu énervant de faire un cadeau que l'autre, il n'a pas envie. Parce qu'on voit sa tête. Ah, merci. Ou alors de se retrouver avec quatre grippins au pied du sapin, tu sais. Ah, ils ont tous eu la même idée, quoi. Super, je me retrouve avec quatre grippins, je suis contente. Bon, il va y avoir du grippin sur eBay dans quelques jours. Mais écoutez bien. On veut aller s'enquérir auprès de ceux qu'on aime. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton Noël, pour ne pas se tromper? Avec Paul dans Éphésiens 1, 22 et 23, je veux réaliser, déclarer que Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette affirmation des plus christocentriques doit nous permettre de reconnaître la source de notre foi. Christ qui, par son Esprit Saint, a déversé en nous une abondance, une vie abondante, pleine de grâce, de foi et d'Esprit Saint. Et je termine avec cette citation et un verset. Andrew Murray a dit, « Avez-vous réalisé ce que cela signifie que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs ? Est-ce que vous avez réalisé ? Ce n'est rien de moins que ceci. Christ, qui était avec les disciples sur la terre, mais pas en eux, revint à eux par l'Esprit, maintenant pour les habiter. Tout ce que nous lisons à propos du changement merveilleux qui est survenu sur les disciples, leur égoïsme s'est changé en amour, leur orgueil en humilité, leur peur de souffrir en audace et en joie, leur incrédulité en plénitude de foi, leur faiblesse dans le pouvoir était due, parce que parfois quand on a le pouvoir, on est très faible hein, quand on l'exerce, était due à cette seule chose, le Christ glorifié était venu habiter en eux. En eux. À l'écoute de toutes ces choses, ne serait-il pas temps de nous examiner nous-mêmes en rapport de notre foi et de la plénitude qui doit en découler ? Seigneur, peut-être que je te demande depuis des années d'augmenter ma foi pour que je puisse enfin recevoir la promesse que tu m'as faite. Mais pardonne-moi, Seigneur, parce que tu m'as donné assez de foi pour la saisir. Tu m'as pas dit, voilà, j'ai ça pour toi, débrouille-toi pour l'attraper. Ah mais moi j'ai que ça de foi, Seigneur, comment je vais faire ? Le Seigneur dit pas, ah ben je l'ai fait exprès pour que tu me demandes d'augmenter ta foi. Non. Ce qu'il te tend, il t'a donné assez de foi pour le saisir. Rien de ce que Dieu met devant nous est hors de notre portée. Même si cela te semble impossible. La foi qu'il a mise en toi, la foi du Christ qui est dans ta vie, est largement suffisante pour saisir tout ce que Dieu a pour toi. Si un petit peu de foi, grand comme un grain de moutarde, peut déplacer une montagne,
Dis-moi que ce que Christ te promet dans ta vie, tu n'as pas assez de foi pour l'avoir. Parce que tu confesserais que tu as encore moins de foi que la taille d'un grain de sénevé. Je termine sur ce verset. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 5. Certes, il fut faible lorsqu'il mourut sur la croix. Mais la puissance de Dieu lui a rendu la vie. Car c'est par elle qu'il vit à présent. Écoutez bien. Nous aussi, c'est toi ce matin, si nous participons à sa faiblesse, nous participons également dans la communion avec lui à sa vie par la puissance de Dieu. Il est venu partager notre humanité et nous participons avec lui à la même faiblesse. Mais nous avons la possibilité dans la communion avec lui de participer à sa divinité, de goûter à la puissance de Dieu par la présence du Christ qui agit en nous. Vous vous rendez compte, dira Paul, par notre conduite à votre égard. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve, dit Paul. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, dit-il. Faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? Et il va terminer en disant, à moins que cet examen ne tourne à l'échec, et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Parce qu'en vous examinant, vous allez trouver qu'en fait, vous n'avez pas la foi. Pas la foi du Christ. Vous avez la foi naturelle dont je parlais la semaine dernière, qui permet d'être un religieux, une religieuse, de croire dans ce qu'on voit, d'avoir notre petite routine. Mais pas la foi du Christ qui est en toi, qui te permet de saisir l'impossible, le miraculeux, l'extraordinaire, le surnaturel. Je souhaite que chacun de vous fasse son examen de conscience, de cœur, de spiritualité. Et regarde cette foi qui est en lui, pas tant en quantité qu'en qualité. Cette foi qui est en moi, est-ce la foi d'un homme, comme je le partage avec tous les gens de ce monde? Ou est-ce la foi de Dieu qui a été mise en moi, la foi du Christ? Si elle a la taille d'un grain de sénévé, elle n'est pas très visible, hein, dans tout ce que nous stockons à l'intérieur de nos vies parfois. Et cette petite graine de foi, si je l'active, elle va bouleverser toute ma vie. Elle va me faire atteindre des choses inatteignables, me faire saisir des choses insaisissables. Elle va relever des choses écroulées. Elle va faire écrouler des choses indestructibles. Elle va me faire entrer dans le terrain de l'impossible. Non parce qu'elle se base sur moi, mais parce qu'elle regarde essentiellement à Christ et à aucune autre circonstance. Alors, peu importe la quantité de foi que tu as, avec celle que Christ a mis en toi, tu peux saisir ce qu'il te tend ce matin. Sa promesse, sa grâce, sa bénédiction dans ta vie et sur ta vie. Que vous soyez tous remplis de grâce, de l'Esprit Saint et de la foi, selon la mesure de Dieu, qui est un Dieu d'abondance. C'est pourquoi la plénitude doit jaillir de vos vies. Soyez des chrétiens pleins et débordants de Dieu.